cette démonstration prouve que la tondeuse sur coussin d'air est véritablement la plus facile à utiliser. Avec Flimo, on travaille sans fatigue.
On doit tous acheter cette tondeuse, disait cette pub de 1967.
Mon imprimante laser, je l'ai choisie simple.
Une personne, une imprimante.
À chacun son imprimante, dit cette pub de 96.
L'impression est terminée.
Et en plus, elle parle.
En 93, posséder une Audi, c'était pas juste avoir une voiture.
Il a l'argent. Il a le pouvoir. Il a une Audi. Il aura la femme. Il a l'argent. Il a le pouvoir.
Après nous, les mouches.
Après nous, les mouches.
Après nous, les mouches.
Après nous les mouches, c'est une expression belge. Un peu dégoûtante, un peu film d'horreur. Celui qui dit « après moi les mouches » dit qu'il s'en fiche en fait de ce qui vient après. Le climat, les suivants. Ce podcast va écouter les suivants. Les jeunes Européens qui devront gérer la Terre, notre cocon qui prend l'eau. Cet épisode va parler de ce qu'on surnomme l'économie du partage. De plus en plus de systèmes permettent de ne plus acheter certains objets comme une tondeuse, une imprimante ou une voiture, de plutôt emprunter, louer ou échanger des choses ou des compétences entre citoyens. Alors ce partage, ou parfois ce business déguisé en partage, est-ce qu'il est forcément écologique ? Amay, en province de Liège. Je trouve vite la salle Omnisport, mais je mets du temps à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Il y a beaucoup d'excitation. Il y a plein d'élèves de fin de secondaire, par groupe, d'une dizaine, autour de grandes tables.
Bonjour, vous sachez qu'il est 11h30. Ça veut dire quoi, tout simplement, que dans 2 heures, on présente son idée.
Et puis, il y a un chrono qui tourne, qui a été enclenché il y a 22h.
Comment ça se passe? À 13h30, on présente vos projets. C'est incroyable! Devant un jury exceptionnel. Donc voilà, il nous reste 2 heures. On y va dans le concret et on balance les bonnes idées de ce merveilleux Young Climaton.
On est en plein bouclage de ce Young Climaton. C'est une course de 24 heures pour créer dans chaque groupe un projet pour la planète de A à Z. Donc le concept, le budget, la faisabilité, la totale.
Ah oui, il faut trouver le nom de la boxe.
Oui.
Le nom de la boxe.
Les gars, bonjour. Bonjour,
le nom local, c'est très bien. Oui.
Pour tenir la dernière ligne droite, il y a un groupe de filles qui grignotent des M&M's. Et ça fait un peu sourire parce qu'elles créent justement un kit de nourriture locale, bio et saine. Ça, c'est le genre de grand écart que je fais encore bien aussi.
On veut que ça soit local, donc bonjour local.
Bonjour c'est... local ou mangeons local.
Mangeons local.
Oui,
mangeons local.
Alors, on fait un jeu de mots.
Un peu plus loin, il y a une tablée de garçons plongés dans des Legos.
Attends, il est où le truc de deux, là?
Et du coup, la boîte, on va la faire. Mais non, la porte, faut pas qu'elle vienne au-dessus, parce qu'on n'aura jamais assez de Lego. Faut qu'elle vienne genre sur le côté.
C'est quoi le lien entre le fait de faire des Lego et le climat?
Ici, on a fait un projet sur la mobilité. On compte construire des caisses où on va pouvoir mettre des outils. Par exemple, pour le déplacement en vélo. Il y a des gens que ça arrive qui crèvent ou que leur chaîne déraille et ils n'ont pas forcément les outils adéquats sur eux. Donc là, on va faire une maquette en Lego pour montrer à la fin cette petite boîte à outils qu'on compte faire comme projet.
Elle se trouvera où, la boîte à outils?
Par exemple, dans la gare à Warem, parce que nous, on vient de Warem. Mettre surtout aux endroits les plus fréquentés, donc par exemple les écoles. On a mis la gare, il y a la place aussi à Warem qui est très fréquentée. Mais aussi, on va en mettre sur tous les petits chemins de remembrement et tout ça, parce que ça peut arriver qu'on crève dans ces endroits-là et ce serait utile aussi là-bas.
Une fois un truc de 4. Ah, mais gros, tu veux quoi?
Je sais pas, une pince, c'est tout simple. Ou une clé Allen ou quoi, tu vois? Ouais, une clé Allen, ça peut être beaucoup plus simple. Et en plus, pour les vélos, t'en as besoin.
Et vos outils vont venir d'où?
En fait, on prévoit dans le projet d'aller par exemple chez les gens, leur demander s'ils n'ont pas des outils qu'ils n'utilisent pas. Parce que tout le monde chez soi a des outils, tout le monde en a trop. Et donc on viendrait demander aux gens si par exemple ils seraient prêts à nous donner des outils pour justement avoir ça en moins à payer, quoi.
Vous cherchez des outils à donner pour en faire des outils partagés, c'est ça?
Voilà, c'est ça exactement. C'est l'idée du projet.
Tu fais juste un bon cuir et sur le côté, on aura tous les outils.
Si on croise plus tard des boîtes à outils à Warem, on saura comment avait germé cette idée.
Bonne journée.
Cette idée de mettre à disposition des outils pour que chacun ne doive pas les acheter, elle a fait naître un autre projet à Bruxelles. Nous sommes dans un quartier de bureaux européens, près du centre-ville. Une porte de parking souterrain est grande ouverte sous un immeuble.
Bonjour, je cherche Olivier Baïs.
Ce qui me frappe d'abord en entrant, c'est que plutôt que sentir l'essence des voitures, ça sent le bois.
On a des centaines de machines électriques. Et
on est dans une outil tech. Ça fonctionne en gros comme une bibliothèque où il y aurait des visseuses à la place de Victor Hugo.
Tillage à main. Donc, ça, vous connaissez ?
Oui, oui.
Des tronçonneuses.
Ouais. Jusque-là, ça va. J'ai vu deux, trois films.
Une taillée.
Ouais, okay. Le truc qu'on n'utilise quand même pas tous les jours.
Non. Pourquoi acheter ça ? Ça n'a pas de sens. On a aussi m'appelle Olivier Beys, je suis fondateur de Tournevis. J'ai lancé l'initiative en 2015 avec des amis. Nous avons tous les outils qu'il vous faut pour réparer, rénover, créer des choses chez vous.
Comment ça fonctionne ?
Il faut être membre, c'est un peu l'idée du concept. Donc vous cotisez 40 euros par an. Et puis, vous pouvez emprunter tout ce qu'il y a chez nous. Donc, il n'y a pas trop de limites, tant que c'est raisonnable, évidemment. On ne veut pas qu'une personne emprunte tout, mais en général, les gens sont raisonnables. Et donc, après une semaine ou deux semaines, ça dépend un peu, vous ramenez tout. Mais l'avantage de Tournevis, c'est qu'il n'y a pas de caution. Donc, il ne faut pas payer une caution de 200-300 euros. Même si les outils sont de qualité plutôt professionnelle et donc de qualité.
Est-ce que c'est bon pour le règlement ? Il est bien arrivé ?
T'as payé par carte le...
Par virement.
Par virement ?
Un bricoleur se présente au comptoir, il est venu rendre une machine.
Il y avait un peu le bouton, non ? C'était pas très gênant.
Non, ça n'a pas été...
J'ai emprunté un sender, donc une ponceuse. Je trouve que c'est génial, que c'est dans une logique d'économie durable. En plus de ça, il y a des cours, il y a des ateliers disponibles, donc c'est super chouette.
Vous allez rempiler, quoi.
Oui, avec grand plaisir.
Ça fera un peu de bruit, là.
Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette structure-ci ? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle apporte ?
On s'est dit, OK, il y a pas mal de gens qui veulent faire des choses chez eux, mais ils dépendent soit de la location assez chère, et donc la plupart des gens ne le font pas, ou... des points de vente plutôt bon marché. Et donc, les outils sont de mauvaise qualité, sont sous-utilisés. Et donc, nous, on veut que nos ressources soient utilisées au maximum. Je vais vous montrer une machine. C'est notre première machine, en fait. Voilà, ce que vous voyez, c'est une scie circulaire. Donc, la première machine qu'on a achetée de seconde main, la machine était cassée, donc on l'a réparée nous-mêmes. Et entre-temps, elle a été empruntée plus, je pense, 141 fois. C'est une efficacité en termes de ressources imbattable, en général, chez des points commerciaux de location. Je pense que ces outils sont utilisés peut-être 7 ou 8 fois au maximum avant qu'ils les remplacent. Et c'est pour ça que c'est très cher. Et donc, on veut donner des options bon marché à tout le monde. Donc, au lieu de faire acheter des outils par les gens, on veut donner l'accès. Et donc, comme ça, les gens payent moins, mais on va aussi épargner, entre guillemets, la planète. Et on va mutualiser, en fait, notre argent, mais aussi nos compétences, notre temps, pour faire en sorte que ces services existent. Ouais.
Leur collectif d'une quinzaine de bénévoles et de 2 salariés à temps partiel permet d'animer une antenne. Mais il dit que dans l'idéal, il en faudrait une dans chaque commune pour ne pas devoir traverser toute la ville avec ses outils. Pour ça, il aimerait plus de partenariats avec des associations ou des entreprises, ou surtout les communes, pour trouver des locaux. Et les communes, dit-il, ne sont pas toujours soutenantes. Il cite en exemple Bologne, une ville italienne, qui a revu ses règlements communaux pour faciliter la naissance de projets collaboratifs. Et puis, il salue une autre initiative politique. La Commission européenne a annoncé qu'elle veut instaurer dans toute l'Union un droit à la réparation.
Chaque semaine, on doit réparer des outils. Et donc, en ce moment, ça nous coûte beaucoup d'argent, beaucoup de temps, parce que ces machines ne sont souvent pas conçues pour être réparées. Et donc, l'Europe, très bientôt, en fait, va proposer des nouvelles règles pour l'éco-conception, mais aussi pour réduire le coût des pièces de réchange. Parfois, une pièce de réchange coûte la moitié de la machine, donc c'est extrêmement cher. Pour notre initiative, l'éco-conception, etc., ça va réduire nos frais et surtout les salaires qu'on doit payer. Des grosses machines.
On termine la visite de Tournevis par des ateliers partagés. Ça, c'est le domaine de Hugh, bien concentré dans sa grande barbe. Il est en train d'assembler une table.
Ça, c'est des sous de la table. Là, il y a des lattes comme ça, le couac pour faire des pieds. Ça, c'est récupéré. On veut avoir un lieu qui est disponible à tout et à tous. Et que, voilà, on garde les prix raisonnables pour le maximum de public. Donc oui, on a fait un élément social. Quand il y a beaucoup de gens, il y a toujours un échange entre les utilisateurs. Il y a une personne qui a une idée de comment aider un autre. Il y a vraiment un aspect social ici dans l'atelier.
C'est impressionnant en fait quand on y pense, le nombre d'idées qui ont émergé ces 10 dernières années ou qui ont pris de l'ampleur en tout cas grâce aux applications. Des applis d'échange de maisons, d'échange de vêtements, de services, avec des objectifs comme ceux des élèves de Warem ou de l'Outitech, c'est-à-dire faire économiser de l'argent, polluer moins et nouer des contacts sociaux. Mais assez vite, on a vu des multinationales se coller au mouvement, des plateformes avec de très grandes ambitions commerciales qui se sont appropriées les mots partage, collaboratif et puis toutes les valeurs positives qui vont avec. Du coup, aujourd'hui, quand on entend ces mots-là, on a en tête un grand fourre-tout.
Vinted.
Uber en partage.
De quoi
Ouais, Dot Lime.
Un compte Uber.
Dot Lime.
Ça, c'est des trottinettes?
Ça, c'est des trottinettes de location.
Pornhub, XNXX.
Agro, arrête de
bêter. C'est en direct, c'est en direct. C'est en direct, madame.
Et les vélos et tout.
Uber, Airbnb, ce ne sont pas les valeurs sociales de projets comme l'Outitech. Uber fragilise les droits des travailleurs et les relations humaines se dégradent dans des quartiers sous pression d'Airbnb. Eh bien, de la même façon, qui dit économie du partage ne dit pas automatiquement durable. Je m'en suis rendu compte à Namur.
Ici, on est devant la gare de Namur et sur chaque coin de trottoir, on a des grappes de trottinettes partagées. On est devant des vélos partagés. Tous ces véhicules partagés, c'est 100% déplacement écologique ou pas ?
Alors dans le cas des vélos, oui, on peut dire que c'est 100% écologique parce que bon, il y a la fabrication, mais ce sont des vélos qui normalement ne sont pas trop dégradés et donc qui ont une certaine durée de vie.
Jonas Mourman, conseiller énergie de l'association EcoConso.
Pour ce qui est des trottinettes, là c'est un peu différent parce qu'il y a beaucoup d'électronique, il y a des batteries, donc le coût de la fabrication, le coût écologique est plus important. Et il faut qu'elles soient utilisées quand même de manière intense pour pouvoir récupérer leur coût de fabrication. Et d'autre part, surtout avec les trottinettes, c'est surtout intéressant si ça remplace des trajets en voiture plutôt que des trajets à pied. Parce que si quelqu'un prend la trottinette au lieu d'aller à pied, on ne peut pas dire qu'il gagne au niveau écologique. Là où c'est un gain, c'est quand ça permet d'avoir moins de voitures dans le centre-ville. Il y a aussi le fait de charger ces batteries. L'électricité, ce n'est pas neutre en CO2. Ça a quand même 200-250 grammes par kilowattheure, donc ce n'est pas rien. Pour les trottinettes, la façon dont on les recharge est importante, mais la façon dont on les collecte, si on a une vieille camionnette, ce sera beaucoup moins écologique que si on prend un vélo cargo. Voilà.
Pour les redistribuer dans la ville, vous voulez
oui.
dire ?
Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, évidemment, c'est des batteries, donc il faut les recharger à un moment. En général, ce sont des particuliers qui, eux, arrondissent les fins de mois en allant collecter les trottinettes, les recharger chez eux et puis les rapportent. La plupart des personnes font ça dans leur véhicule personnel. Alors, en général, c'est un diesel ou un essence, et donc ça rajoute un petit peu au bilan des trottinettes.
Je me souviens qu'au lancement des trottinettes partagées, on avait vu circuler des photos de trottinettes récentes, mais déjà cassées et entassées. Au départ, elles avaient une durée de vie très courte.
En effet, donc il y a une étude il y a quelques années qui a montré que la durée de vie moyenne des trottinettes était de 3 mois. Et donc en 3 mois, en fait, on ne pouvait pas récupérer l'empreinte de fabrication.
L'empreinte carbone de la fabrication de la batterie.
Voilà, c'est ça. Donc, de mémoire, une trottinette comme ça, ça va être 200 kg de CO2 équivalent pour la fabrication. On ne pouvait pas économiser autant à l'usage en 3 mois. Donc, c'est il y a 2-3 ans, mais ça a beaucoup évolué. Les opérateurs ont généralement du matériel plus solide. Dans les endroits où il y a des fleuves, parce qu'il y a beaucoup de trottinettes qui étaient dans l'eau, la trottinette est verrouillée, on ne sait pas aller trop près de l'eau. Et donc, il y a une série d'astuces qui permettent d'allonger justement la durée de vie des trottinettes et de diminuer leur empreinte carbone.
Jonas Mourman m'explique que les constructeurs ont aussi rendu les batteries amovibles. Donc, pour les recharger, on ne doit plus collecter toutes les trottinettes, mais juste les batteries. Les trottinettes, c'est un exemple, parmi d'autres, de partage intéressant pour la planète, dans certains cas et pas dans d'autres, selon la fabrication et selon notre usage à nous. Alors donc on voit qu'il y a énormément de marques qui peuvent avancer ces mots économie collaborative, économie partagée, parfois avec du greenwashing. Est-ce qu'il ne faudrait pas un label pour que le consommateur, la personne, le citoyen, sache si c'est réellement quelque chose qui a été conçu de façon bénéfique pour la planète?
Comme ça, intuitivement, je dirais que c'est extrêmement compliqué parce que ça dépend en fait très fort de l'usage. Si on reprend Blablacar, eh bien, il y a des études de l'ADEME qui montrent que pour tout ce qui est trajet pendulaire pour aller au travail, par exemple, le covoiturage est vraiment bénéfique et donc ce système-là est intéressant. Mais que par contre, pour les longs voyages, il y a un effet rebond parce que comme c'est relativement facile et peu cher, on va peut-être multiplier les trajets. Et il y a aussi une concurrence par rapport au transport public, par rapport au train. Et donc là, c'est très difficile à évaluer. Du coup, on ne pourrait pas mettre un label pour dire « Ok, c'est ok pour les trajets domicile-travail, mais pas pour les trajets où il y a un train. » Donc, ce serait très difficile d'avoir un label général. Ça me paraît très très compliqué.
Plutôt qu'un label partage durable, Jonas Moorman suggère de se poser soi-même quelques questions avant d'utiliser un service. Se demander quelles sont ses valeurs, s'il fait du bien à la société et quelle est la qualité du matériel qu'on va y trouver. Et enfin, comment est-ce qu'on va soi-même utiliser ce service ou chercher ce matériel. Bon, je crois que j'ai compris. C'est pas mal pour la planète d'emprunter un appareil raclette plutôt qu'en acheter un. Mais si tu fais 30 km avec ta vieille diesel pour aller le chercher, comment dire ? Laisse tomber le fromage.
Après nous, les mouches, après nous, le déluge.
C'était un podcast RTBF Euranet Plus, réalisé par
Myriam Ball
et Christophe Bernard. Une série à découvrir sur Ovio, rtbf.be ou votre plateforme de podcast préférée.
Après nous, le déluge. Après nous, les mouches. Après nous, le déluge.
Mieux comprendre l'Europe avec Euranet Plus, le premier réseau d'information européenne.